Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani sur la radio Nata 91.7 FM à Gao et 84 autres radios partenaires sur l'ensemble du territoire. Merci de nous renouveler votre confiance au menu de ce journal. Les responsables de Djoliba TV News ont été entendus par la commission des médias éthiques de la Haute Autorité de la Communication cet après-midi. L'organe de régulation fait des reproches à une émission de débat de la chaîne de télévision. Dépistage, sketch et dons à l'endroit des associations sont les principales activités de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce matin au Centre national de lutte contre le diabète. Les étalons du Burkina Faso et les lions de la Teranga du Sénégal s'affrontent ce soir à 19h. Ce duel au compte des éliminatoires de la CAN du Maroc 2025 se joue au stade du 26 mars de Bamako. Ces titres vous seront développés tout à l'heure par Moumine Sendebou avec la collaboration technique d'Adjaratou Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le directeur de Djoliba TV News et le journaliste Mohamed Attaher Alidou étaient conviés ce jeudi à la Haute Autorité de la Communication. Les deux confrères ont été entendus par la Commission des médias et d'éthique de la HAC sur l'émission du débat Rendez-vous des idées du 10 novembre 2024. Maman Baba Kunta nous fait le point.
Cette convocation de Djoliba TV News intervient après l'incarcération hier mercredi d'Issa Kaoudjim par le pôle anti-cybercriminalité pour offense à un chef d'État étranger. Sur le plateau de l'émission Rendez-vous des idées, Issa Kaoudjim avait qualifié de mise en scène la tentative de coup d'État annoncée par les autorités burkinabè. Ce n'est pas la première fois que Djoliba TV News est convoqué par la HAC. En novembre 2022, la chaîne avait déjà été suspendue pour 2 mois pour propos diffamatoires et accusations infondées. Une suspension qui avait soulevé de vives réactions au sein de la société civile et de la presse. Le groupement patronal de la presse écrite a réagi à cette convocation de la chaîne de télévision Djoliba TV News. Dans une déclaration, l'organisation interpelle la HAC sur son devoir de protection de la liberté de la presse. Le groupement patronal rappelle aussi qu'aucune disposition des textes de l'AS en vigueur n'autorise à faire de ces instances de régulation des vases communicants. Il en appelle à la vigilance de tous les acteurs de l'espace médiatique malien. Il les invite à la résistance face à toute velléité attentatoire à la liberté de la presse et d'expression.
Sur le même sujet, le président de la Maison de la Presse se dit confiant. Il espère que la Haute Autorité de la Communication du Mali va respecter les textes en la matière. Aussi, Bandjougou Danté rappelle que la HAC a un rôle de régulation qu'elle ne doit pas confondre avec un rôle politique. Bandjougou Danté est au micro de Maman Baba Kunta.
Que ce soit le Conseil supérieur de la communication du Burkina ou la Haute Autorité de la communication du Mali, c'est des instances de régulation qui sont régies par des textes. Et le respect de ces textes s'impose à tout le monde. Ce ne sont pas des structures politiques, c'est des structures de régulation. Et ces structures de régulation doivent d'abord avoir comme mission principale la préservation de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Nous espérons que ces structures de régulation ne vont pas confondre leur rôle administratif avec un rôle politique. Je crois que la manière dont la procédure régulière est faite, en envoyant la correspondance en bonne et due forme, de la même manière, la HAC va, nous l'espérons, respecter les textes en la matière.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La journée mondiale du diabète a été célébrée ce jeudi 14 novembre au Centre national de lutte contre le diabète sous le thème « Diabète et bien-être ». Cette journée de sensibilisation a été marquée par des dépistages, des sketchs et des dons à l'endroit des associations qui luttent contre la maladie. Reportage signé Issa Omar Touroula.
Avec un taux de prévalence de 5%, le diabète constitue un véritable problème de santé publique et un enjeu majeur pour le développement au Mali, a affirmé Youma Sale, représentante du ministère de la Santé. Selon elle, des acquis notables ont été réalisés dans la lutte contre cette maladie.
L'existence d'un centre de lutte contre le diabète est une unité de prise en charge du diabète à l'hôpital du Mali. La décentralisation de la prise en charge du diabète au niveau de 32 CCRF, la dotation des structures en matériel de prise en charge du diabète et l'existence d'une politique et d'un plan stratégique national contre les maladies non transmissibles, incluant le diabète.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 422 personnes sont atteintes de diabète dans le monde et plus de 80% des décès liés à cette maladie se produisent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Son représentant national, Dr Christian Itama Mayekulu, alerte face à l'augmentation des cas et la faible couverture des traitements dans ces pays.
Nous avons constaté une augmentation alarmante du diabète au cours des trois dernières décennies qui reflète l'augmentation de l'obésité aggravée par les effets de la commercialisation d'aliments malsains, le manque d'activité physique et les difficultés économiques.
Au cours de cette journée de sensibilisation, les intervenants ont lancé un appel pour une amélioration des moyens de prévention et une subvention de la prise en charge pour réduire le coût du traitement.
Éliminatoire à Cannes, Maroc 2025, le stade du 26 mars accueille le duel opposant les étalons du Burkina Faso aux lions de la Teranga du Sénégal. Les deux nations sont arrivées déjà à Bamako. Chacune de ces équipes compte sur le soutien de sa communauté présente dans la capitale pour la victoire. Si les supporters sénégalais ont déjà payé des tickets pour leurs compatriotes, le Burkina Faso compte sur ses frères de l'AS. Reportage Oumar Waigalo.
C'est cette joie qui règne à la maison des Indes de Bamako où l'osent des supporters des étalons. Ils sont venus en grand nombre et se disent confiants pour la victoire du Burkina Faso. Christian Tapsoba, chef de la mission des supporters des étalons.
On est venu pour prendre nos trois points qui nous restent. Demain, nos Burkinabés qui résident à Bamako et les Maliens et les Nigériens qui vivent ici, de sortir maximum à 19h pour remplir le stade. Tous derrière les étalons, le Sénégal est dans la sauce.
Les supporters des Lions de la Teranga aussi mobilisent. Des centaines de tickets ont été achetés par des supporters et distribués à la communauté sénégalaise du Mali. Maktar Diop, président des supporters des Lions de la Teranga au Mali.
Tous les quartiers presque de Bamako, hein, on a des responsables qui sont là-bas, dont des cars de transport ont arrivé sur le terrain, on leur donne les billets. On compte quand même mobiliser officiellement 1000 supporters. Je sais qu'il y aura plus de 2000 Sénégalais qui seront au stade pour accompagner les Lions dans la paix, le respect des lois et des règlements en vigueur au Mali.
Entre les étalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal, qui va remporter la tête du groupe L. Rendez-vous ce soir au stade du 26 mars de Bamako.
Toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Aigles continuent leur séance d'entraînement à Maputo, au Mozambique. La liste des joueurs sélectionnés a été revue après les forfaits pour les blessures des attaquants Moussa Djenepo, Lassine Sinayogo et le défenseur Moussa Diarra. Par ailleurs, Amadou Danté et Ibrahim Cissé sont arrivés en renfort dans le nid des Aigles le mercredi. Le match Mozambique-Mali comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires est prévu pour demain vendredi à 16h.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Ce qui nous conduit à notre rubrique dossier de la semaine à l'occasion de la rentrée scolaire, le port de la tenue est une exigence dans certains établissements et facultatif dans d'autres. Il permet de mettre tous les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, indiquent des responsables scolaires. Que pensent donc les élèves du port de la tenue scolaire? Qu'en est-il pour les parents d'élèves? Des éléments de réponse dans ce dossier, une réalisation d'Amadou Sadio Camara.
Dans cette école publique de Bamako, le port de la tenue scolaire a été restauré par les responsables pour lutter contre les inégalités et les différences sociales. Sengipiri Aljuma est le directeur du second cycle.
La tenue est obligatoire, voilà, donc nous avons fait de telle sorte que les enfants des pauvres aussi soient à l'aise en classe avec les enfants des riches.
Cette norme vestimentaire est aussi restaurée dans de nombreuses écoles privées. Mohamed Ba, directeur d'un de ces établissements, affirme avoir rendu obligatoire le port de la tenue scolaire, cela pour plusieurs raisons. Et l'enseignant précise que ce qui ne se plie pas à cette règle sont passibles à des sanctions.
Le port de la tenue est obligatoire parce qu'on a constaté qu'à un moment, il y avait des élèves qui portaient des tenues insupportables. Donc on était obligé d'insourer les tenues. Bon, c'est obligatoire de respecter. Si tu ne respectes pas, je te mets à la porte.
Au regard de ces affirmations, que pensent donc les premiers concernés du port de la tenue scolaire? Il s'agit bien évidemment des élèves. Écoutons ces avis.
Bon, vu que le port de la tenue est de mettre les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, portée, donc moi, je le portais sans problème. Je n'aimais pas porter notre uniforme scolaire parce que le t-shirt était en soie, donc ça me gênait.
Moi, j'ai porté la tenue parce qu'elle me permettait d'éviter de toujours salir mes autres habits.
Du côté des parents d'élèves, on avance de nombreux avantages dans le port des uniformes scolaires.
Le port de la tenue nous facilite la tâche, notamment l'achat des habits.
Si les élèves portent la tenue, ils sont mieux identifiés comme des écoliers et les gens leur cèdent souvent la route.
Et pourtant, le port de la tenue scolaire est devenu facultatif après certaines plaintes exprimées par certains acteurs de l'école. C'est ce qu'indique Anita Koulibaly, chef section à la formation au sein de l'Académie d'enseignement de la région d'Issegou.
Avant, on voyait le caractère obligatoire du port de la tenue. Mais de nos jours, avec les nombreux problèmes, la latitude est laissée à chaque établissement de s'organiser avec ses partenaires pour le port de la tenue scolaire.
Il faut noter que le port de la tenue scolaire ne profite pas qu'aux acteurs scolaires, car certains tailleurs rencontrés affirment également en tirer profit en termes de couture, même s'ils indiquent enregistrer peu de commandes cette année comparé à l'année précédente.
18h passées des 10 minutes, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Nous retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour nous parler du sujet du grand dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, quel est le thème que vous abordez?
Bonsoir Moumine. Que comprendre de l'accord entre les industries et les exportateurs des produits oléagineux? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Dr Abdoulaye Ntiki Konaré, économiste, Diakarija Dambélé, sous-directeur du commerce intérieur et consommation d'Acela, exportatrice de sésame, et Madame Kadiatoula, présidente du collectif des filières soja, karité, arachide, sésame.
Merci, bonne présentation. Alors, fidèles auditeurs, c'est ce qui boucle ce journal. L'ensemble de la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter ainsi que le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, mais il vous faut 100 francs de crédit téléphonique sur votre compte. Au Mali, de plus en plus des enfants possèdent des téléphones depuis un certain âge. Dans nombre de cas, ces téléphones sont achetés par les parents pour rester en contact régulier avec l'enfant. Pourtant, ces appareils sont très souvent utilisés à d'autres fins par les enfants. Regarder des vidéos ou des images dont certaines sont obscènes sur Internet ou les réseaux sociaux, discuter avec des amis pendant des heures, entre autres, des usages qui peuvent négativement impacter l'enfant sur plusieurs plans, préviennent des psychologues et pédagogues. Dans ce magazine, tous les enfants du Mali, ils invitent les parents à restreindre l'utilisation du téléphone par les enfants. C'est une réalisation d'Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Dans les rues de Bamako et Kaya, nous avons croisé de nombreux enfants en possession de téléphones portables Android. À la question de savoir ce qu'ils font avec, écoutons leur réponse.
J'ai un téléphone avec lequel je prends des photos et regarde des vidéos sur TikTok et WhatsApp. Je fais aussi des recherches avec.
J'ai eu un téléphone à 15 ans, je regarde seulement des vidéos avec et je surfe souvent sur WhatsApp.
Avec mon téléphone, je fais des recherches sur Google et je visionne des vidéos sur WhatsApp.
Comme ces enfants, ils sont légion des mineurs qui détiennent des téléphones, des appareils offerts à eux, pour la plupart, par les parents. À Bamako, Ségou, Gao et Yoroso, certains parents expliquent pourquoi ils achètent des téléphones pour leurs enfants et comment ils font le contrôle.
On n'est pas souvent tellement à la maison. Souvent, il y a le besoin d'échanger avec les enfants, avoir leurs nouvelles. À partir de 20h, je récupère les téléphones jusqu'au matin.
Je fais ça pour qu'ils puissent vraiment faire des recherches avec ça.
Oui, le téléphone peut aider l'enfant dans ses études, reconnaît Dr Moussa Cissé, pédagogue. Il prévient toutefois que l'usage abusif du téléphone par l'enfant peut produire l'effet contraire.
La pédagogie évolue avec les mutations sociales. L'éducation aussi doit s'adapter à ces changements technologiques. L'enseignant dans sa classe doit passer forcément par des illustrations, par des images. Le téléphone répond à ce contexte-là. Ce qui serait grave, à mon avis, quand le téléphone est détourné du contexte pédagogique, il devient comme un instrument de réjouissance, un instrument permettant à l'enfant d'accéder à des images prohibées.
Le psychologue Drissa Traoré abonde dans le même sens. Il conseille aux parents de veiller à ce que les enfants aient une utilisation modérée du téléphone au risque d'exposer l'enfant à certains problèmes.
L'usage excessif du téléphone peut limiter l'attention des enfants. Cela peut rendre difficile pour eux de se concentrer longuement sur des tâches académiques. La lumière bleue émise par les écrans peut perturber les cycles du sommeil. Les enfants en particulier, s'ils utilisent leur téléphone avant de dormir, le manque de sommeil, la régulation émotionnelle.
Ce n'est pas à tout âge qu'on doit donner un téléphone à un enfant. Mais si le besoin s'y fait sentir, cet acte doit être accompagné de suivi et de sensibilisation des parents sur la bonne pratique de l'usage numérique, nous dit Issiaka Diarra, informaticien.
On a pratiquement 3 tranches d'âge pour ceux qui veulent vraiment donner le téléphone pour les besoins de communication et de sécurité à leur enfant qui a moins de 12 ans. Des téléphones basiques qui n'ont pas accès à Internet, donc juste pour pouvoir communiquer avec eux, savoir où l'enfant se trouve. Et de 12 à 14, on peut l'offrir son premier smartphone avec des restrictions aussi d'accès sur Internet. À partir de 15 ans, on peut aller un peu de restrictions sur Internet, mais avoir quand même une discussion régulière avec l'enfant.
Au-delà, les parents ont également la possibilité de restreindre l'usage numérique, explique Issiaka Diarra, informaticien.
Ces iPhones et ces Android ont des systèmes contrôle parentaux. On peut limiter le temps d'utilisation même de certaines applications, restreindre l'utilisation du téléphone, filtrer les contenus inappropriés, bloquer même certains sites. Google Family Link, qui permet aussi de superviser le temps d'écran, ou d'autres applications qu'on peut installer sur le téléphone de l'enfant, telles que Norton Family et Talk Break, géolocaliser le téléphone de l'enfant. Il y a d'autres même qui peuvent nous faire des rapports d'utilisation.
Pour des parents qui souhaitent acheter à tout prix des téléphones pour les enfants, les pédagogues conseillent de mettre en place des stratégies pour que les téléphones restent dans le cadre éducatif.